c'est Franck de Falaise. Bon, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui, là, jeudi, sur le MLF, quoi, enfin, la libération de la femme. Et en fait, enfin, je voulais illustrer tout ça avec un truc que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, là. C'est une pub pour Carrefour, que j'ai reçue il y a 2 jours, je crois. Et en fait, ça représente une jeune femme couchée sur le côté et enlaçant un aspirateur. Le même aspirateur, un espèce de tuyau immense qui serpente sur le corps de cette jeune femme. Elle n'est pas dénudée, quoi, heureusement. Il ne manquerait plus que ça. Enfin, voilà, le truc super phallique et tout. Enfin, voilà, la femme libérée, quoi, qui couche avec son aspirateur. Une nouvelle sexualité, peut-être, je sais pas.
Oui, salut Mermet, j'écoute ton émission. C'est de plus en plus étrange, ton truc, là. Alors, cette dame, elle voit des bébés qui se tortillent de plaisir, mais qu'est-ce qu'elle leur fait? Je suis un petit peu inquiet, tout de même. Hein? Je suis un petit peu inquiet. Et puis, à 15 ans, les jeunes filles sont disponibles. Ah, d'accord. C'est bien, ces propos. Et puis, la libération, c'est l'homosexualité, j'ai entendu. Ah ben, dis donc, c'est drôle, ça. Il faut aller se faire sodomiser pour être libre. Ça va faire mal, hein, la liberté, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on n'entend pas dans ton émission, mon pauvre. Ça a vraiment beaucoup changé. Hein. Enfin, il faut de tout. Bye.
Bonjour Daniel, c'est Isabelle. Je vous dis tout net, je ne suis pas une inconditionnelle de vos émissions, qui sont parfois un brin démago. Celle de lundi, en forme de panégyrique, m'a laissé sur ma faim. Par contre, bravo et merci pour le témoignage de Thérèse. C'est vraiment une merveille d'intelligence et d'humanité. Merci à vous, merci à Thérèse et bon vent au Baba Yaga.
Ah oui, bonjour, je suis Michel. Vous devez vous souvenir de moi, l'interview sur la camionnette, dans la camionnette verte. Je vous appelle parce que je suis en train de vous écouter, évidemment, j'ai repris l'écoute fidèlement, comme d'habitude. Et j'entends cette dame, Thérèse, et je confirme ce qu'elle a dit. J'étais déjà prostituée en 68. J'ai eu des avortements avec curetage à vif à l'hôpital Saint-Louis. On m'a dit, espèce de salope, ça t'empêchera l'envie de recommencer. Voilà. Et évidemment, on risquait la tôle à l'époque. Voilà. Évidemment, quand j'entends des gamines maintenant qui oublient la contraception et je suis surprise et révoltée quand j'entends que les gamines pensent encore à avorter, alors avec tous les moyens de contraception qu'il y a. Voilà, ça me prend la tête. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher de lui donner mon avis et de confirmer ce que dit Thérèse. On a vécu l'enfer. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si ça intéressera, cette réflexion intéressera, mais voilà, je tenais à la faire.
Je viens d'entendre Thérèse parler des avortements à domicile pratiqués par le MLAC. La vraie histoire du MLAC reste à écrire, puisque des militants engagés comme Thérèse, il y en a eu des milliers en France entre 1973 et 1974. Mais à tout prendre, c'est encore Simone Veil qui rend à sa façon un bel hommage à Thérèse dans son livre de mémoire, page 180. Elle écrit « Michel Poniatowski m'avait précédé au ministère de la Santé et il avait pu prendre la mesure du grave problème de l'avortement clandestin dans notre pays. J'étais loin de m'attendre qu'il m'entretienne aussitôt de ce problème avec une telle conviction, allant jusqu'à me déclarer « Il faut aller vite, sinon vous arriverez un matin au ministère et vous découvrirez qu'une équipe du MLAC squatte votre bureau et s'apprête à y pratiquer un avortement. J'en suis resté sans voix. Je savais que le problème était grave, mais je ne savais pas que jusque dans l'entourage de Giscard, les hommes politiques en possédaient une conscience aussi aiguë. Beaucoup d'entre eux vivaient les provocations du MLAC comme autant de pressions injustifiables vis-à-vis de l'État. On ne peut pas supporter que des cars et des trains partent vers l'étranger pour que des femmes avortent, affirmait Giscard alors à ses proches.
C'est un peu comme pour arrêter de fumer. Vous savez, quand on fume, alors au début on fume comme ça. On s'est mis à fumer et puis on ne sait pas comment, on s'est mis à fumer et puis c'est agréable. Il faut dire, hein, c'est agréable. Puis un jour on finit par apprendre que ça fait mal. Alors on s'est dit, ouais, un jour j'arrêterai. Et puis on dit, bon, aujourd'hui je continue mais demain j'arrêterai. Et sans s'en rendre compte, on a l'impression qu'on attend de ne plus avoir envie. Mais ça se passe pas comme ça. Hein. Si on attend de ne plus avoir envie pour arrêter de fumer, eh bien, on n'arrêtera jamais. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est un peu comme la libération. T'sais, on pourrait se dire, ouais, là, c'est pas bien, mais attends, un jour, je vais me réveiller et je vais avoir envie de me libérer.